dialogue entre Congolais avec Alain Hirung.
Bonsoir, clôture le week-end dernier à Kinshasa de la deuxième session de la conférence des gouverneurs. À l'issue de cette conférence, les gouverneurs des provinces ont recommandé, entre autres, au gouvernement central de revoir à la hausse le niveau de l'enveloppe des recettes rétrocédées et à toutes les institutions de prendre des dispositions utiles pour des élections générales organisées dans un climat apaisé et sécurisé. Comment analyser ces recommandations des gouverneurs des provinces? Nos invités dans cette émission sont José Makila Soumanda, gouverneur honoraire de l'Équateur. Il est président du parti politique de l'opposition dénommé Alliance des travaillistes congolais pour le développement, ATD en sigle. Monsieur le gouverneur honoraire, bonsoir.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Professeur Jean-Pierre Mbwebwa, politologue et professeur à l'Université catholique du Congo. Il est expert en décentralisation. Professeur Mbwebwa, bonsoir.
Bonsoir.
Alphonse Ngoy Kasanji, gouverneur de la province du Kasaï Oriental. Monsieur le gouverneur, bonsoir. Vos réactions, chers auditeurs et internautes, comme d'habitude, nous sont déjà parvenues. Wamenya de Bukavu Sud Kivu, on ne comprend pas ce que produisent toutes ces conférences des gouverneurs organisées qui vont de recommandation en recommandation. Peuvent-ils nous dire d'abord où en est-on avec les premières recommandations? Chef des travaux Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka à l'Équateur, au lieu de se conformer à la Constitution en réclamant la retenue à la source, les gouverneurs des provinces encouragent le gouvernement central à violer systématiquement la Constitution en matière de rétrocession. Bienvenue à tous dans votre émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le gouvernement central appelé à fournir un effort supplémentaire pour revoir à la hausse le niveau de l'enveloppe des recettes rétrocédées aux provinces. C'est l'une des recommandations issues de la deuxième session de la conférence des gouverneurs des provinces. Présidée par le chef de l'État, ces assises qui ont duré 2 jours, soit du 26 au 27 août 2011 au Palais de la Nation, se sont penchées sur cet aspect de la vie nationale, parmi lesquels la tenue des prochaines élections. Notez que seuls 9 gouverneurs titulaires sur les 11 que compte le pays ont pris part à cette deuxième session des gouverneurs. Le Bandundu et l'Équateur se sont fait représenter par leur gouverneur adjoint. Les grandes recommandations de ces assises avec vous, Kelinkouté.
Cette grande recommandation en découlait de cette réunion, à savoir l'augmentation de l'enveloppe des recettes rétrocédées, tenant compte de la tendance à l'augmentation des recettes budgétaires propres. Dans le même ordre d'idées, la conférence a réitéré sa recommandation relative à une concertation régulière entre le gouvernement central et les provinces, notamment en matière d'affectation du budget d'investissement à réaliser en province. Concernant les élections, la conférence a recommandé à toutes les institutions de prendre des dispositions utiles en vue de l'organisation prochaine des élections générales dans un climat apaisé et sécurisé et a demandé aux institutions concernées de prendre des dispositions en vue de rendre opérationnels les tribunaux de paix dans la perspective de la prise en charge du contentieux électoral au niveau local. Dans le secteur de l'énergie, la conférence a recommandé au gouvernement de faire de l'énergie la priorité des priorités des 5 chantiers de la République. Abordant la question relative à l'avant-projet de loi fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances des provinces et des ETD, ainsi que leurs modalités de répartition, la conférence des gouverneurs a donné son avis favorable des principes en recommandant au gouvernement de finaliser les discussions techniques avec ses experts et ceux des gouverneurs des provinces. Et enfin, s'agissant de l'appui du gouvernement aux efforts de développement économique et social déployés par les provinces, la conférence a recommandé au gouvernement d'examiner les voies et moyens d'encourager l'approvisionnement du pays en intrants agricoles, en équipements médicaux et en produits pharmaceutiques utilitaire à travers notamment les mécanismes d'octroi des exonérations et autres avantages fiscaux.
Merci, Kelinkouté. Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoy Kassanji, vous êtes gouverneur de la province du Kassai-Oriental. Je vous propose que l'on commence par l'état des lieux des provinces. Monsieur le gouverneur, qu'est-ce qu'on peut retenir à ce sujet?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. S'agissant des états des lieux des provinces, la conférence a fait ressortir les avancées réalisées dans les 11 provinces du pays grâce au programme salutaire des 5 chantiers initié par son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange. Néanmoins, elle s'est attardée sur quelques problèmes généraux et spécifiques qui se posent encore dans ces provinces.
Tels que?
Au niveau politique, judiciaire, administratif et économique, et a fait des recommandations quant à ceux. Donc, vous savez, quelquefois, vous voyez, on observe ça et là, la justice, quelquefois, qui n'est pas bien administrée, la situation économique, deux fois, pour ce qui concerne notre province, l'approvisionnement en produits de première nécessité, les produits d'importation posent des problèmes. Il y a des marchandises qui traînent sur la voie ferrée pendant longtemps. Donc, tous ces problèmes, quelques problèmes spécifiques, et il y a eu des recommandations quant à ces. Donc, la conférence a reconnu les efforts fournis par le gouvernement central dans les paiements aux provinces des recettes rétrocédées. Donc, il y a eu quand même...
Monsieur le gouverneur, excusez-moi, on aborde l'aspect rétrocession tout à l'heure, mais pour nous apesantir un peu sur l'état des lieux des provinces, vous voulez dire que en province, tout va bien, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que tout va bien?
Non, on ne dit pas que tout va bien. Il y a eu des avancées significatives. Nous avons parlé des actions réalisées en ce qui concerne les 5 chantiers de la République. Il y a eu des routes. Bien sûr qu'on n'a pas terminé toutes les routes, mais il y a eu quand même des travaux remarquables et remarqués. Donc, en ce qui concerne la desserte anneau, bien sûr qu'on n'a pas résolu le problème. Pour résoudre la question de la desserte anneau, il y a le court, moyen et long terme. À court terme, il y a eu des actions posées qui ont permis quand même que la population ait de l'eau, même si on n'en a pas pour 24 heures, mais au moins 3-4 heures, 5 heures, donc la population a de l'eau, il y a des avancées, mais il faut pérenniser les actions, il faut qu'à moyen terme, qu'on ait des barrages partout pour résoudre totalement la question de l'eau. Mais ce n'est pas faisable dans 4 ans, il y a des actions qui peuvent aller à moyen terme, ça peut prendre 5, 6, 7 ans, donc tout ça, ce sont des avancées, des questions qui ont été traitées, il y a des avancées, mais on n'a pas résolu tous les problèmes.
Monsieur le gouverneur, après ces assises, les gouverneurs ont effectué une tournée à travers les chantiers ici à Kinshasa, et en suivant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur sur la télévision nationale, il a dit que c'était pour permettre au gouverneur d'avoir un message à passer pendant les élections en s'inspirant de Kinshasa. N'avez-vous pas de message par rapport à vos provinces et vous devriez nécessairement vous inspirer de Kinshasa?
Écoutez, chaque province a eu son programme, a présenté son programme devant l'Assemblée provinciale, devant le peuple représenté par ses représentants à l'Assemblée nationale. Et chaque province exécute un programme précis. Et il y a des comptes à rendre à la population par rapport à son programme. Donc, toutes les provinces ont travaillé par rapport à leur programme et ont des réalisations qui sont reconnues aussi par le gouvernement central. Mais ce n'est pas tout le temps que les gouverneurs de province viennent à Kinshasa. Comme ils étaient à Kinshasa, il y a certaines actions qu'ils ne sont pas au courant. Ils ne sont pas au courant de certaines réalisations dans la capitale. Voilà ce qui a justifié les tours des différents chantiers réalisés pour qu'on s'en imprègne, qu'on sache qu'il y a eu beaucoup d'actions menées dans la capitale. Mais aussi, c'est aussi bien d'échanger les informations. Donc, quand on échange des informations, on peut, parce qu'on apprend chaque jour, et ça peut aussi nous apprendre à faire d'autres actions similaire. Voilà ce qui a justifié le tour de chantier.
Alors, en parlant rétrocession, monsieur le gouverneur, vous avez salué et reconnu les efforts fournis par le gouvernement central dans le paiement aux provinces, mais on se souvient qu'au début de cette législature, plusieurs gouverneurs de province avaient même menacé le gouvernement central de retenir à la source les 40%. Comment se fait-il que maintenant vous vous complaisez dans ces rétrocessions, en violation même de la Constitution?
On ne se complaît pas. Je pense qu'il faudrait que l'on aille beaucoup d'informations avant de s'attaquer à la position des gouverneurs. D'abord, la problématique des 40% se pose dans ce sens-ci. Bien sûr, la Constitution consacre de retenir à la source les 40% des recettes réalisées par les provinces et collectées par le gouvernement central. C'est la Constitution. Mais si on y va d'une manière brutale et comme les gens l'entendent, ça veut dire qu'il y a des provinces qui vont se retrouver qui n'ont même pas 300 000 dollars à la fin de chaque mois. Parce que il y a des provinces qui produisent, donc les provinces non industrialisées, les provinces qui ne font pas de recettes, les provinces qui ne sont pas au poste frontalier, n'ont pas beaucoup de recettes. Et celles-là ne peuvent pas vivre de leurs 40%. Donc, il faut une solidarité nationale. Il faut collecter toutes les recettes, ainsi en défalquer les 40%, mais par solidarité nationale, rétrocéder ces recettes aux provinces, même les provinces qui ne sont pas, qu'on appelle les moins nantis, leur donner quelque chose pour qu'elles aussi puissent fonctionner. Voilà pourquoi nous parlons de la rétrocession au lieu de la retenir à la source. Parce qu'il y a certaines réalités liées à cette retenue à la source, des 40%.
Merci, monsieur le gouverneur José Makila Soumanda. Vous êtes gouverneur honoraire de l'Équateur, actuellement président du parti politique de l'opposition dénommé Alliance des travaillistes congolais pour le développement ATD. Comment vous avez accueilli cette deuxième conférence des gouverneurs?
Merci, monsieur le journaliste. Je salue mon frère gouverneur Ngoï Kasangi. Mais je dirais que je ne suis pas du tout d'accord avec le gouverneur Ngoï Kasangi. Parce que on ne peut pas aller de violation en violation de la constitution de notre propre pays. Cette constitution a été mise sur pied par référendum, ne l'oublions jamais. Il est vrai qu'au départ, nous nous sommes concertés avec le gouvernement central quand je fus encore gouverneur. Et on s'est dit, il y a certaines réalités, comme l'a si bien souligné le gouverneur Ngoï Kasangi, et qu'on ne devait pas aller directement dans la retenue de 40% à la source. Donc il fallait appliquer l'article 56 de la Constitution, lequel cet article-là. Tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses naturelles. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir le droit au développement. C'est la raison pour laquelle nous avions accepté la rétrocession. C'est suite à l'article 56, parce que les provinces étaient arrivées, il fallait faire avec ça, mais certaines provinces, je prends l'exemple de Bandundu, de l'Équateur, qui ne pouvaient pas réaliser une certaine recette. Mais au fur et à mesure, les gouverneurs étaient censés mobiliser des recettes et sortir de ce qui est dit l'anticonstitutionnel pour rentrer dans le droit chemin qui est la Constitution. Aujourd'hui, les provinces doivent avoir leur retenue à la source de 40%, appliquer l'article 175 de la Constitution.
Mais le gouverneur Ngoï Kasangi a dit qu'il y avait des contraintes, elles ne persistent pas jusqu'à aujourd'hui.
Monsieur le journaliste, je me mets à la place de Ngoï Kasangi. Si j'étais obligé, comme aujourd'hui tous les gouverneurs sont obligés d'être du PPRD, quel langage voulez-vous que le gouverneur puisse tenir? Soyons sérieux, le gouverneur est le prolongement du gouvernement. Voulez-vous qu'il tienne un langage contraire à celui du gouvernement? Je suis à sa place et je me mets à sa place et je le comprends parfaitement. Je le dis ici parce que je suis un homme libre, je ne suis lié d'aucun devoir, ni d'aucun secret professionnel.
Autrefois, vous étiez lié.
Exactement.
Voilà, en revenant à l'état des lieux des provinces, il vous arrive souvent également d'aller en province, monsieur le gouverneur honoraire José Makila. Quel est l'état des lieux que vous présentez des provinces? Vous avez suivi le gouverneur Ngoï Kasangi?
Oui, j'ai suivi le gouverneur et je le redis de nouveau, il ne peut que tenir ce discours-là. Parler de l'effectivité de 5 chantiers. D'abord, les cinq chantiers, c'est quoi? Les cinq chantiers, il ne s'agit pas que des routes, des infrastructures routières ou des infrastructures scolaires, non. Les cinq chantiers, c'est d'abord l'eau et l'électricité, ce qu'on appelle l'énergie. Quelle heure est-ce que le gouverneur peut me donner le taux d'électrification de la ville, rien que la ville de Mbujimayi, pour dire qu'il est satisfait? L'eau, combien les gens de Mbujimayi peuvent mourir aujourd'hui de maladies hydriques? Ne parlons même pas de l'Équateur. Alors, moi, je me pose la question, où est parti ces cinq chantiers? Nous descendons, nous prenons le volet, au pif, la santé. Qu'est-ce qu'on a amené, on a apporté comme réforme au niveau de la santé, au niveau scolaire? Qu'est-ce qu'on a apporté comme réforme? Combien d'emplois qui ont été créés? Je vous donne les chiffres, et les chiffres ne viennent pas de M. José Makila. Les chiffres viennent du gouvernement. 83% de chômage dans ce pays. Est-ce que les cinq chantiers a amené de l'emploi ou a créé du chômage? Je me pose la question de savoir si vraiment le Congo profond est content et réellement, parce que on construit des routes, c'est bien. Moi, je ne dirais pas le contraire, les routes sont construites. Mais c'est ce qu'on appelle la continuité dans les affaires de l'État. Nous avons aussi ce qu'on appelle les fonds des institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale qui finance les routes. L'Union européenne qui finance des routes. Que sais-je encore? Et ce sont des programmes qui ont été établis depuis 2001. Moi qui vous parle, je fais partie de ceux-là qui ont établi le programme PEMUR. Je l'ai suivi avec tout le monde. Donc, c'est bien, je veux que ça rentre dans le compte de cinq chantiers. Mais ne voyons pas seulement un seul aspect. Voyons tous les aspects que comportent les cinq chantiers. Voilà.
Prenons cette réaction qui nous vient de Kolwezi Okatanga pour vous, M. José Makila.
Philippe Maseka à Kolwezi Okatanga. On ne peut rien attendre de positif de cette conférence, car toutes les recommandations formulées lors des conférences antérieures n'ont jamais été prises en compte. Pour ma part, je pense que les gouverneurs sont allés en simple promenade de santé à Kinshasa.
Est-ce une conférence de trop?
Non, je salue d'abord cet effort-là parce que la conférence est instituée par la Constitution en son article 200. Et elle peut être convoquée, ne serait-ce qu'au minimum deux fois par an. Et depuis cette législature, c'est la deuxième fois que cette conférence soit convoquée. Vous voyez qu'en quatre ans, deux fois au lieu de huit fois. C'est deux fois, on dira, ok, c'est bon, deux, c'est déjà plusieurs, mais ça va rapporter quoi? Combien de consultations nous avons fait avec mon frère, mon oncle Ngoï Kassanji, auprès du Premier ministre, en commençant par lui-même. Avant Mozito, c'était le Premier ministre Gizenga. Et après Mozito, sur les denrées alimentaires, la crise alimentaire, il faut faire ceci, les gouverneurs venaient vite ici avec le ministre Kalou Menumbi. Tout ce qu'on avait fait comme concertation, ça a couché que de petites souris. Et je me pose la question si ces conférences de gouverneurs vont rapporter quoi. Je félicite même celui qui a intervenu tout à l'heure.
Professeur Mbouéboua, je vous vois sourire. Vous êtes politologue et professeur à l'Université catholique du Congo, expert en décentralisation. Il faut souligner, professeur, qu'en ce moment, vous animez un grand séminaire sur la décentralisation en RDC. Quelle est votre analyse à ce niveau par rapport à cette deuxième conférence des gouverneurs?
Non, moi, personnellement, je suis content que cette deuxième conférence ait eu lieu, comme le gouverneur Makila vient de le dire, parce que vous vous souviendrez qu'il n'y a pas longtemps, ici même chez vous, on déplorait le fait que cette conférence des gouverneurs n'était toujours pas convoquée. Il y avait l'unique conférence des gouverneurs qui avait eu lieu il y a longtemps et que les conférences des gouverneurs n'étaient plus convoquées. Donc, nous pouvons saluer le fait de cette initiative qui est très importante et qui permet aussi de répondre à l'exigence légale de convoquer au moins deux conférences des gouverneurs par an.
Ne serait-elle pas simplement électoraliste à la veille des échéances?
Non, mais vous savez, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui est exigé par la loi, il faut déjà saluer ça. Donc on ne peut pas vouloir une chose et en même temps critiquer lorsque on réalise cette chose-là. Donc de ce point de vue, je peux déjà féliciter, n'est-ce pas, le chef de l'État d'avoir convoqué, qui est le président de la conférence des gouverneurs, d'avoir convoqué cette conférence. Maintenant, une autre question, c'est est-ce que la conférence a abordé les questions fondamentales? Hein, ça, je crois que on peut dire que la conférence de gouverneurs a quand même a posé des problèmes importants. Et surtout, quand je vois que tous les gouverneurs sont sortis de cette conférence très satisfaits, hein, apparemment. Parce que,
à la fin de la législature.
Non, de la conférence des gouverneurs. Hein, donc apparemment, tous les gouverneurs semblaient être satisfaits de cette conférence. Parce que autrefois, lorsqu'ils allaient dans la conférence, souvent ce sont des gouverneurs des provinces qui sortaient avec des questions non entièrement résolues. Et donc, dans ce sens-là, nous pouvons penser qu'ils ont bien travaillé, même si la période ne permet plus à ces gouverneurs-là d'avoir d'autres opinions. On n'a plus le temps, la tête est aux élections. Donc, ça aussi, c'est une circonstance qui puisse justifier, n'est-ce pas, la facilité ou, disons, l'accord facile aussi hein, entre le pouvoir central et les provinces. Mais nous encourageons cela.
Professeur, votre analyse également sur l'état des lieux des provinces.
Bon, on ne peut pas dire que toutes les provinces sont au même niveau, du point de vue ne fût-ce que de réalisation que nous voyons dans les provinces. Il y a une grande différence. Lorsque nous prenons le Katanga, par exemple, il y a quand même des choses visibles. Je crois aussi qu'on a dit, je crois, au Bas-Congo aussi. Hein, ça semble aussi être un peu bien. Et Kinshasa, ce n'est pas l'effort de la ville. Ici, c'est l'effort du gouvernement central, en fait, que nous voyons ici à Kinshasa. Donc, Kinshasa bénéficie de son statut de siège des institutions. Et donc, on peut dire que pour ces provinces-là, il y a quand même quelque chose qui s'est fait. Mais quand on prend d'autres provinces, on voit quand même que les réalisations se font très très lentement. Donc il y a quand même très peu de choses que l'on puisse vraiment citer qui se réalisent.
C'est comme quelle province, professeur, parce que vous avez cité de l'autre côté d'autres provinces.
Bon, moi j'ai fait un peu le tour de toutes les provinces, hein, il n'y a pas longtemps, j'étais à l'Équateur, je n'ai pas été très impressionné par les réalisations. J'étais dans les Kassai occidentales, je n'ai pas été très impressionné non plus. J'étais même à Bukavu aussi, il n'y a pas très longtemps. Là, au moins, je n'ai pas sillonné la province. J'étais dans la ville de Bukavu. Au moment où j'étais là, il y a, je crois, une année, hein, l'état des routes laissait à désirer. Même si je me faisais une très haute idée de Bukavu. Quand je suis allé là-bas, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas vraiment grand-chose. Quand je suis arrivé à Lubumbashi, j'ai été impressionné par l'effort en termes de routes, l'effort d'assainissement. Et donc aussi le fort de reprise d'activité économique. Donc j'ai vu quand même que c'est pas la même chose. Hein? Au Bas-Congo aussi, je vois quand même que les axes importants hein, sont quand même entretenus. Hein? On peut atteindre plusieurs points du Bas-Congo par route sans problème.
Professeur, il y a cet auditeur Paluku Ntsongo du Nord Kivu qui dit « Dans notre pays, même les prescrits de la Constitution, entre parenthèses retenus à la source de 40% par les provinces, sont toujours sujets des négociations, demandes et supplications. Celui qui est le garant du respect de la Constitution devrait, je pense, nous expliquer au peuple congolais le pourquoi de cette violation de la Constitution. À la fin de la législature, cette disposition n'est toujours pas appliquée. »
La disposition de...
La retenue à la source des 40%.
Bon, voilà. Je crois que nous avons suivi les explications du gouverneur Ngoï Kassanji qui explique, qui justifie aussi pourquoi le pouvoir central procède à la rétrocession. Je crois que nous ne pouvons pas accepter cette explication-là du point de vue, n'est-ce pas, du respect de la Constitution. La Constitution a été promulguée, n'est-ce pas, pour être appliquée. La Constitution n'a pas été promulguée pour qu'on commence à négocier l'application des dispositions. Donc, dans ce sens-là, même au moment où le constituant a institué ces modes-là, le constituant savait que dans notre pays, on a toujours appliqué la rétrocession. C'est la rétrocession qui est connue. Mais si le constituant a choisi cet autre mode de retenir à la source, c'est compte tenu des mentalités des Congolais. Hein, comme on se connaît très bien, on sait qu'une fois l'argent à Kinshasa, ça a toujours été difficile que Kinshasa puisse terminer ses besoins et qu'il en trouve encore à rétrocéder, à remettre en province. Je crois que c'est compte tenu de cette mentalité que le constituant est allé dans le sens de retenir à la source. Et donc, et nous voyons aussi les difficultés que nous avons à appliquer la rétrocession. Même si je sais que dans beaucoup de pays du monde, c'est la rétrocession qui est appliquée. Mais chaque pays applique les lois, écrit des lois conformément à sa mentalité, à son contexte.
Voilà. Avant de donner la parole à M. le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, je vois le gouverneur José Makila demander instamment la parole. Juste un mot avant de donner la parole.
Juste un mot en ce qui concerne la rétrocession. J'ai même pitié des gouverneurs. Tout gouverneur qu'ils sont, pour qu'ils aient la rétrocession, qui semble être droit à la place de la retenue à la source, mais ils doivent faire des pieds des grues au ministère de budget. Vous le savez, pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Et c'est malheureux.
Monsieur le gouverneur Alphonse Ngoï Kassanji, brève réaction par rapport à tous ces éléments qui ont été avancés ici.
D'abord, merci. Je salue mon oncle, le gouverneur Makila, et le professeur, l'expert, et tous les auditeurs de la radio Okapi qui suivent cette émission. Donc, je commencerai d'abord par dire que quand on parle des 40%, j'ai suivi le gouverneur Makila parler de la retenue à la source, qu'il faut nécessairement y aller. Mais je vais dire une chose, la Constitution, c'est une loi fondamentale. Donc, elle lève les grandes options. Mais il y a des lois organiques qui expliquent les grandes dispositions de la Constitution. Donc, quand on parle de la retenue à la source, on prévoit aussi une loi organique, la loi des finances, qui doit faire la clé, mettre la clé de répartition. Parce que les provinces qui n'ont pas de moyens ne le sont pas par leur propre volonté. C'est peut-être par la position géographique, ainsi de suite. Et ils importent de la marchandise. Vous pouvez importer de la marchandise qui vient de l'Europe, mais qui passe par le port de Matadi. De par la position du port, le Bas-Congo collecte les recettes, mais la consommation de ces marchandises, ça va jusqu'au Kassai dans le fin fond. Donc le Kassai participe à la mobilisation de ces ressources-là. Et le port même de Matadi n'a pas été construit avec les moyens propres de la province du Bas-Congo. Le port a été construit par l'effort de solidarité nationale. Voilà pourquoi il y a une clé de répartition. Donc, il y a une loi organique qui explique les grandes options de la Constitution. Si vous appliquez mal la Constitution, eh ben, vous allez préjudicier d'autres provinces. Donc, voilà pourquoi cette loi doit être mise en place pour répartir les recettes collectées au niveau des provinces. Ensuite, nous n'avons pas été obligés d'adhérer au PPRD, comme l'a si bien dit le gouverneur Makila, mon oncle. Nous avons accepté en âme et conscience. Nous sommes des hommes libres. On ne peut pas nous obliger non plus. Donc nous faisons ce que... c'est par conscience que nous avons accepté d'adhérer, par conscience et par conviction.
Monsieur
nous
le
avons
gouverneur.
Accepté d'adhérer.
Monsieur le gouverneur.
Ensuite, il y a beaucoup de points, il faut qu'ils expliquent. Il ne faut pas qu'on laisse la population en l'air.
Essayez de ramasser ces points, monsieur le gouverneur. Vous avez la parole.
Il y a les 5 chantiers qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas exécutés. Je veux dire, j'ai parlé de l'exécution de tous les programmes. Ici, chez nous, au Congo, nous devons apprendre que le développement d'un pays, quand les grands pays font leur planification, ils y vont jusqu'à 25 ans, 30 ans, 50 ans. On ne peut pas terminer tous les problèmes du Congo dans 5 ans.
Merci.
Dans 5 ans, il y a eu des avancées. Il a parlé, il a reconnu qu'il y a des routes. Donc, il faut reconnaître qu'il y a quand même quelque chose qu'on est en train de faire. Donc,
Monsieur le gouverneur,
ça se fait, c'est visible.
Monsieur le gouverneur, je vous propose de suivre cette réaction qui nous vient de Béni au Nord Kivu pour vous.
Moi, c'est Kamber Mundoli qui a parti des îles de Béni dans la province du Nord Kivu. Au propos des recommandations que le gouverneur a adressées au gouvernement central, je sais que ça n'a pas vraiment d'importance capitale compte tenu du temps qu'il nous reste avant de mettre fin à ces mandat du gouvernement de 2006. Pour l'instant, nous, le peuple, nous avons vraiment besoin de connaître les réalisations et aussi ce qui reste à faire pour en fait savoir ce que nous pouvons en tirer comme bilan. J'aurais souhaité que le gouverneur adresse ses recommandations au gouvernement qui sera élu. Ça veut dire le gouvernement de 2011.
J'ajoute, monsieur le gouverneur, cette réaction de l'ingénieur Augustin de Mbandaka à l'Équateur qui dit « Je me demande si le peu d'argent de rétrocession que nos gouverneurs recevaient a servi à la reconstruction de leurs provinces respectives. Or, au regard de la réalité sur terrain, la situation du Congolais moyen laisse à désirer. » Brève réaction, je vous en prie.
J'aimerais dire que c'est vrai, les attentes de la population sont nombreuses et que ces attentes ne peuvent pas trouver de solution dans 5 ans seulement. Dans 5 ans, même aux États-Unis, on donne toujours la chance aux présidents américains d'avoir 2 mandats. Si vous suivez l'historique de succession, disons, à la Maison-Blanche, vous trouverez qu'on donne toujours la chance à un président d'avoir 2 mandats pour terminer son programme.
Merci.
Alors, mais
terminez votre
idée. Il y a des problèmes soulevés. Il faut que je puisse répondre, sinon...
Allez-y, monsieur le gouverneur, vous êtes largement en avance sur le temps.
Je dis au professeur qui a parlé tout à l'heure des réalisations, heureusement qu'il n'a pas visité la province du Kassai-Oriental, je lui donne raison. S'il avait visité la province du Kassai-Oriental avant 2007, il trouverait qu'il y a pas mal de choses qu'on a réalisées. Donc, on a un réseau routier urbain qui est bien fait, merci. 22 kilomètres de route, et le travail continue. On lancera à 45 kilomètres de route donc dans la ville de Mbujimayi, asphaltée, et la ville est urbanisée. L'ensemble de la province, il y a les désenclavements de la province, les routes d'intérêt provincial,
merci.
D'intérêt donc des dessertes agricoles ont été réhabilitées.
Merci, monsieur le gouverneur. Monsieur le gouverneur, je m'excuse de vous arrêter. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites. Monsieur José Makila, vous étiez gouverneur. Comment vous aviez géré à l'époque les fonds de rétrocession?
Oui, mais je ne voudrais pas laisser les auditeurs sur leur soif. Il faut que les auditeurs comprennent bien ce qu'est l'article 175 de la Constitution. Je le lis pour mon oncle Moïse Kassangi. Le budget des recettes et des dépenses de l'État, à savoir celui du pouvoir central et des pouvoirs de province, est arrêté chaque année par une loi. La part des recettes à caractère national allouée aux provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source. La loi organique fixe la nomenclature des autres recettes et non les recettes à caractère national. Donc, il n'y a aucune loi organique fixant la retenue à la source. Il faut qu'on se comprenne bien. En ce qui concerne la rétrocession, je vous assure que les gouverneurs souffrent. J'ai dit la vérité et mon frère Ngokasanji a raison. Il ne peut dire le contraire parce qu'il est dans la gestion. C'est tout à fait normal. Il s'assume. Il est responsable. Il s'assume. Mais les gouverneurs souffrent avec la rétrocession. Ils souffrent. Ils ne peuvent pas faire grand-chose. Or que le Congo doit être développé à partir de l'intérieur.
Mais il y a également beaucoup d'observateurs qui ont décrié votre gestion quand vous étiez à la tête de la province de l'Équateur en cette matière.
On ne reviendra pas là-dessus parce que quelqu'un qui a mal géré doit se trouver en prison. La place d'un mauvais gestionnaire, c'est en prison. Et je prends à témoin le ministre de Justice, son Excellence, monsieur... Il s'appelle encore le ministre de Justice, notre ministre
Luzolo Bambi.
Je le prends à témoin. Ils ont harcelé les magistrats pour que je sois arrêté. Mais je n'ai pas détourné, je n'ai même pas eu à détourner un seul rond de la caisse de l'État. Voilà pourquoi je parle aujourd'hui en tant qu'un homme libre.
Mais dites-nous, vous avez géré ces fonds-là, même si on dit que ce sont des fonds maudits. Qu'est-ce qu'on en fait sur terrain?
Mais je vais vous dire. Pendant 8 mois, M. Makila recevait 8 millions de francs congolais le 10, 8 millions de francs congolais le 30. Je le dis à votre micro. Et je sais que le Premier ministre, son Excellence M. Mouzitu, le suit parce qu'il fut ministre du budget. Pendant au moins 8 mois, avec 16 millions de francs congolais, vous faites quoi pour gérer toute une province? Et après, on vous appelle voleur? On a commencé la rétrocession avec 200 000 francs congolais. Ceci représente quoi? 200 000 francs congolais représentent quoi pour la rétrocession? on monte à 300 000 francs congolais. Ça représente quoi? Jusqu'à 400, 500, 600 000 francs congolais pour gérer toute une province, y compris le gouvernement provincial. Parce qu'il faut que les gens disent la vérité. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils ont atteint un montant d'un milliard de francs congolais par mois. Je ne sais pas. Mais à notre époque, moi, je n'ai jamais eu 800 millions de francs congolais pour un mois. Jamais. Jamais. Je défie quiconque.
Alors, parmi les autres recommandations, monsieur le gouverneur José Makila, il y a l'énergie qu'on a retenue comme priorité des priorités des cinq chantiers de la République. Comment vous analysez cet aspect?
Monsieur le journaliste, on ne peut pas aller vite en besoin parce que demain, on a les élections. Qui peut opérer des miracles au jour d'aujourd'hui en République démocratique du Congo pour qu'on puisse avoir de l'électricité partout? Ne serait-ce qu'augmenter le taux d'électrification partout au Congo, c'est impossible. Je vais prendre comme exemple la ville de Bukavu. Jadis, vous arrivez à Bukavu, vous avez l'électricité 24 sur 24, mais allez aujourd'hui à Bukavu, vous n'avez pas de courant. Et c'est à la veille des élections qu'on va appeler les gouverneurs pour qu'on en parle. Ça, il faut tout un programme. Il faut tout un programme. On ne peut pas gérer le pays à vue. On ne peut pas naviguer à vue. Il faut tout un programme en ce qui concerne l'électricité. Moi, je vous dirais ceci. Je suis de l'opposition, mais nous avons tout un programme là-dessus. Il faut commencer à construire des barrages, des micro-barrages électriques partout au Congo. Je vous donne l'exemple de l'Équateur qui n'a que 1% d'électrification pour toute la province. Et vous allez dire que vous allez électrifier l'Équateur avant les élections, qu'il ne nous reste que 2 mois. C'est pas possible, c'est utopique tout ça. La ville de Kinshasa, par exemple, tout le monde est dans le noir. Et vous allez dire que vous allez électrifier la ville de Kinshasa en moins de 2 mois. C'est utopique tout ça. Donc, il faut une étude, il faut qu'on puisse mener une étude, et ça prend du temps. On ne peut pas se lever du jour au lendemain, on réunit les gouverneurs, on dit, on va parler de l'électricité pour la République démocratique du Congo.
Donc, pour vous, c'est propagandiste.
Ah oui, je trouve que vraiment c'est propagandiste, tout ça.
Professeur Mbouéboua, prenons cette réaction qui nous vient de Goma au Nord Kivu pour vous.
Chantal Faïda, depuis Goma au Nord Kivu. Les recommandations des gouverneurs ne seront valables que si elles incluront les transferts des compétences réelles aux provinces pour leur bonne administration, tout en évitant au maximum des prises de décisions unilatérales par le gouvernement central. Les recettes rétrocédées ne seront revues à la hausse que si le gouvernement a instauré une confiance de la population dans l'utilisation de fonds mobilisés par des services efficace et un système de formation ou de prise de conscience de la nécessité de payer l'impôt et taxes. Bref, instaurer une culture de civisme fiscal dans les chefs du peuple congolais.
Professeur, réaction.
Non, mais madame Chantal Faïda est très intelligente. Je crois qu'elle fait un très bon résumé. Et je crois aussi, effectivement, le transfert des compétences dont elle parle vers les provinces, ce n'est pas simplement un vœu, c'est aussi, à mon avis, la volonté des constituants. Hein, si on a opté pour ces modes de gestion qu'est la décentralisation, c'est une volonté du constituant. Et donc, il faut essayer d'appliquer cela. Et je crois que la raison de cela est d'affirmer ça. Et nous devrions aussi encourager tous les responsables à donner un contenu à nos textes, parce que les lois ne valent que si elles sont appliquées. Mais si les lois ne sont pas appliquées, si tout le monde, au lieu d'appliquer les lois qui sont promulguées, continue à faire de la philosophie, si on va appliquer ou pas, je crois que c'est une mauvaise attitude de prendre devant les lois. Nous devons commencer par respecter nos propres lois, nos propres textes qui sont élaboré par nos élus, hein, qui peinent beaucoup à élaborer ces lois. Et une fois les lois promulguées par les chefs de l'État, je crois qu'elles ne doivent pas faire l'objet de discussions, de philosophies. On doit appliquer.
Professeur, comment redonner confiance à la population par rapport au civisme fiscal à l'intérieur du pays au moment où on parle de la multiplicité des taxes qui se confondent pratiquement entre le gouvernement central et les provinces?
Vous savez, les problèmes de culture fiscale, on va crier, on va faire des campagnes tous les jours. Les citoyens qui payent ces taxes-là ou qui payent l'impôt voudraient voir son argent servir à l'intérêt général. Le jour où les citoyens verront quand même que on met beaucoup d'argent dans les travaux publics, dans des choses visibles, à mon avis, les gens seront quand même convaincus de le faire. De toute façon, c'est une obligation civique. Mais les citoyens doivent être encouragés, hein, en voyant que l'argent, n'est-ce pas, les ressources publiques sont effectivement utilisées. Lorsque parfois les citoyens voient, ils payent l'argent à un prospecteur qui prend l'argent et puis ils voient que ce monsieur le met dans la poche, ça donne une très mauvaise impression, même si après il va peut-être le mettre à la caisse. Hein, mais donc il est important, donc l'idée là d'aller à la banque, de verser à la banque, c'est déjà un début de confiance qu'on essaie d'établir pour montrer aux contribuables que son argent est vraiment dans la caisse de l'État et que cet argent va servir à quelque chose. Donc, même dans les autres pays où les gens payent l'impôt facilement, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réalisées. Donc, c'est très important que nos gouvernants intègrent cette idée-là dans la manière de gérer. Et je crois que les gens seront convaincus de le faire.
Professeur, souvent quand on parle de décentralisation, on évoque toujours cette mainmise de Kinshasa. Est-ce que là, on est en train de sentir une volonté de laisser les provinces finalement libres et se développer?
Ben c'est ça donc qu'on attend. Hein. Et je comprends aussi, nous Congolais, nous sommes toujours influencés par notre passé récent. Nous avons connu le mboutisme ici avec... Le fait que Kinshasa c'était le tout puissant, tout était à Kinshasa, et les gens ont la difficulté d'intégrer que les provinces dont il est question ici sont vraiment des entités politiques, hein, qui sont gérées par des personnes élues, par les élus eux-mêmes. Donc les gouverneurs que nous avons maintenant, ce sont des élus, qui sont élus par des gens élus aussi au suffrage universel direct. Et donc c'est vraiment un pouvoir réel, il faut que les provinces soient perçus comme des entités politiques réelles.
Monsieur le gouverneur Ngoï Kassanji, il nous reste moins de 3 minutes pour terminer l'émission. Est-ce que vous pensez qu'avec cette conférence des gouverneurs, finalement, vous serez libre de percevoir cette rétrocession à la source?
Bien, je crois que même les auditeurs qui suivent, je pense qu'en organisant une émission, on doit suffisamment, on doit donner, on ne donne pas du temps aux gens et puis à un invité, on lui donne une minute, juste une minute, et puis on coupe, on demande à ce qu'on réagisse. Je pense
vous
que
avez le même temps de parler,
on a besoin. Non, non, c'est injuste. Je pense que j'ai décrit ça. Je dois dire que dans cette émission, qui a plus parlé, même les auditeurs suivent.
Oui, j'ai
vous
deux
avez
personnes
votre
au studio.
On vous comprend. Mais ce que je dois dire, c'est que quand je voulais expliquer les 40% et les autres choses, le gouverneur Makila qui dit qu'il faut qu'on puisse retenir à la source dans sa province de l'Équateur, il mobilise combien de recettes à caractère national? Donc s'il mobilise plus, je le défie, et il ne mobilisera pas 500 millions de francs. Et s'il doit retenir les 40% de 500 millions, il n'aura pas plus de 200 millions. Donc c'est la même chose à Bandundu, donc au Kasaï, ainsi de suite. Pour lui, il voudra qu'il ait 100 millions, 150 millions, 200 millions de francs. Il va en faire quoi? Quand il ne reconnaît pas que les 800 qu'il recevait étaient suffisants pour mener les actions. Donc, nous devons comprendre, quand c'est une loi, l'exécution de la loi fondamentale, il faut comprendre qu'il faut qu'il y ait des lois organiques pour expliquer une loi fondamentale.
Pouvez-vous donc conclure ça, déjà, monsieur le gouverneur, l'émission va prendre fin.
Oui. Alors, je veux dire que quand on doit critiquer une action d'un gouvernement, on doit d'abord regarder les moyens qui étaient mis à la disposition de ce gouvernement.
Merci.
On lui a donné combien, il en a fait combien.
Merci, monsieur le gouverneur. Juste rappeler à l'intention de tous ceux qui nous suivent que le gouverneur Ngoï Kassanji a 13 minutes de temps de parole, monsieur José Makila 11 minutes et le professeur Mwebo a 10 minutes. C'est que le gouverneur a le plus parlé. Et vous le savez, dans cette émission, on n'a pas de penchant. Monsieur José Makila, concluez, je vous en prie.
Oui, je vais conclure en disant ceci. Aujourd'hui, les provinces sont prises en otage. Quand la majorité actuelle vote une loi qui donne droit au chef de l'État de dissoudre les assemblées provinciales, je vous dis, à coup sûr, les gouvernements provinciaux sont fragilisés. Et il ne faut même pas appeler les députés provinciaux des élus du peuple. Non, ce sont les élus d'un parti politique ou d'un pouvoir qui peut le déchoir à n'importe quel moment. Et ceci n'est pas correct dans une démocratie.
Professeur Mbouéboua, juste un mot pour terminer.
Non, j'encourage le fait que la conférence des gouverneurs a été convoquée et je souhaite que dans l'avenir, il y en ait encore et que les gouverneurs et les pouvoirs centraux harmonisent leurs vues.
Merci monsieur d'avoir participé à cette émission. Restez branchés sur Radio Capi. Au revoir.